RCJ, à l'écoute de votre vie. Pilpoul. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, les grands mystères de l'univers avec Sylvia Ekström. Sylvia Ekström, bonjour.
Bonjour.
Sylvia Ekström, vous êtes avec nous en duplex de Genève. Vous êtes astrophysicienne spécialisée en physique stellaire. Je suppose que c'est la physique des étoiles.
Absolument, c'est la physique à l'intérieur des étoiles, oui.
La physique et vous êtes responsable de la communication pour le département d'astronomie de l'Université de Genève et vous avez écrit ou co-écrit avec Michel Gauthier-Clair un livre qui s'intitule « Les grands secrets de l'univers » aux éditions Debocq supérieures. « Les grands secrets de l'univers ». Alors, vous dites dans ce livre qui est vraiment très très bien fait et qui évoque tous les grands secrets de l'univers, on va en voir quelques-uns au cours de cette émission, vous dites que donc c'est un livre qui est accessible à partir de 12 ans. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement, lorsqu'on regarde les étoiles, on n'a pas toujours 12 ans?
Oui, alors j'en suis convaincue, absolument. C'est un spectacle qui est absolument merveilleux et même en tant que astrophysicienne professionnelle, on continue de s'émerveiller d'une pleine lune qui se lève et du ciel étoilé. Oui, absolument, il n'y a pas d'âge pour admirer les étoiles.
Vous-même, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous passionner pour les étoiles?
Alors, pour ma part, extrêmement tard, en fait, j'avais 33 ans quand je suis tombée dans la marmite de l'astronomie. Et c'était suite au passage de la comète Hale-Bopp dans le ciel en 98. Et c'est une comète qui m'a complètement bluffée. Ça m'a totalement bouleversé ma vie. Et donc, j'ai quitté mon métier de sage-femme pour me lancer dans les études d'astrophysique. Et heureusement, ça a bien marché. Donc, je suis là. Aujourd'hui.
Très bien. Bien, bah alors écoutez, Sylvia, avec vous, je vais avoir 12 ans et je vais vous poser un certain nombre de questions sur les grands mystères de l'univers parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on nous explique de façon régulière comment naissent les étoiles, d'où vient l'univers, comment est née la Terre, la Lune, etc. Et à chaque fois qu'on se retrouve devant ces questions, on a l'impression d'être... On a envie qu'on nous raconte à nouveau la même histoire, parce que soit on l'a oubliée, soit elle est tellement magnifique qu'on a envie de l'entendre à nouveau. C'est comme les contes de fées qu'on a envie d'entendre des centaines de fois, même si on les connaît déjà par cœur. Donc j'ai choisi quelques questions issues de votre livre « Les grands mystères de l'univers », donc, qui vient de paraître.
Secret, oui.
Magnifique livre pour les fêtes, hein. Je dis ça à nos auditeurs et à nos spectateurs. Donc, « Les grands mystères de l'univers », je vais vous poser un certain nombre de questions, comme si ces questions, je les avais posées pour la première fois et que je découvrais ces grandes merveilles de l'univers. Tout d'abord, ma première question, c'est on entend beaucoup de choses sur l'origine de l'univers, le Big Bang, etc. J'aimerais savoir comment est né l'univers. Je sais qu'il y a, c'est une des entrées de votre livre qui se présente par questions. Il y a des questions sur le Soleil, des questions sur la Terre, etc. Voilà, moi c'est ma première question sur l'univers. Comment est né l'univers?
Alors la sage-femme en moi aimerait bien pouvoir vous raconter la naissance, mais malheureusement on n'en sait rien en fait. On ne peut pas savoir si l'univers est né réellement à un moment donné, si s'est formé à partir de rien. On ne peut que remonter dans le temps le plus loin possible avec les moyens d'observation qu'on a, et ensuite au-delà des moyens d'observation avec nos équations et une certaine théorie. Et quand on remonte dans le temps avec la théorie qu'on a pour décrire l'espace et le temps actuellement, c'est la théorie d'Einstein, hein, c'est la relativité générale. Et quand on remonte avec ces théories jusque le plus loin possible, on arrive à ce qu'on appelle une singularité. On arrive à un moment où, en fait, on ne peut plus décrire ce qu'il y avait avant. Et on tombe dans un univers qui est infiniment chaud et infiniment dense. Et c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Ce Big Bang, c'est un terme, faut bien se rappeler que c'est quelqu'un qui était contre cette théorie, qui l'a nommée de cette manière, par dérision en fait. Ça veut dire une espèce de grand boom, cette espèce d'idée que l'univers serait né dans un grand boom. Et donc c'était plus pour ridiculiser la théorie, mais curieusement c'est le terme qui est resté pour le décrire. Et en fait ce n'est pas vraiment on ne sait pas quelle est l'importance de ce moment dans l'histoire de l'univers. On sait juste qu'on ne peut pas remonter plus loin que ça avec la théorie qu'on a. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle ne prend en compte que la gravité. Or, il y a beaucoup d'autres forces dans l'univers. On connaît 4 forces fondamentales. La gravité n'en est qu'une. Et quand on décrit avec une seule force, on tombe sur cette espèce de moment spécial de l'univers. Rien ne nous dit que si on tenait compte de toutes les autres forces et qu'on traitait un petit peu mieux notre univers, peut-être qu'on aurait une autre résolution en fait et qu'on n'aurait plus de Big Bang. Mais ça, c'est pour les astrophysiciens.
Quelles sont les autres forces? Là, effectivement, on remonte les équations d'Einstein jusqu'à ce qu'on appelle communément le Big Bang, mais en reprenant l'étude de la gravité, quelles sont les autres forces?
Donc les 4 forces fondamentales, c'est la gravité, la force électromagnétique, et puis les 2 forces nucléaires, faibles et fortes, qui elles règlent en fait les interactions entre les particules. Or, si on a un univers qui est extrêmement dense et chaud, ce qu'il a été, ça, on a des traces en fait de ce moment très dense, très chaud, on en est à un état de la matière où c'est vraiment les interactions entre particules qui sont très importantes. Et ne traiter que la gravité et l'énergie globale de ce moment, de cet état de la matière, c'est quand même manquer toute une partie de ce qui s'y passe. Et donc, il va falloir trouver une solution pour intégrer les autres forces fondamentales dans notre théorie, dans une théorie globale, ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Hein. Peut-être que vous avez entendu parler, mais la physique quantique qui s'occupe de l'infiniment petit et des particules n'est pas compatible avec la gravitation. Et on essaye de trouver une nouvelle théorie qui réconcilierait tout ça et qui nous permettrait de revisiter ce moment unique de l'univers, ou en tout cas ce moment exceptionnel au niveau des conditions physiques, pour essayer d'avoir peut-être autre chose qu'un Big Bang.
Donc la gravitation, les forces électromagnétiques. Et les 2 autres forces
sont... Les 2 forces nucléaires, faibles et fortes. La force nucléaire forte, c'est celle qui tient les noyaux ensemble. Donc protons, neutrons, dans un noyau d'atomes. Ils sont collés par la force nucléaire forte. Et puis vous avez la force nucléaire faible, qui elle joue un rôle en fait dans les désintégrations radioactives et dans certaines interactions très particulières entre les particules.
D'accord. Et je suppose que les physiciens ou les astrophysiciens comme vous et tous vos collègues travaillent depuis des années sur ces forces aussi, pour essayer de comprendre comment elles peuvent être des facteurs d'explication aussi de la création de l'univers ou de la non-création.
Alors il y a effectivement toutes sortes d'équipes dans le monde, plutôt liées à la cosmologie théorique, qui essayent de réconcilier, de voir comment intégrer la mécanique quantique dans la relativité générale, ou comment intégrer la relativité générale dans la mécanique quantique, ou en tout cas trouver quelque chose qui chapeaute les deux, et pour lesquels mécanique quantique et relativité générale soient 2 cas de figure particuliers dans des conditions particulières, mais qui ne sont que 2 cas particuliers d'une théorie plus générale qui nous permettrait de vraiment décrire l'univers avec beaucoup plus de finesse.
Alors, Sylvia Ekström, on a l'impression, en vous écoutant, qu'on vit toujours sur cette théorie d'Einstein qui a quand même plus d'un siècle maintenant. Donc on est toujours dans cet univers théorique des équations d'Einstein. Est-ce que ça veut dire que depuis Einstein, ou enfin depuis les révélations qu'il a apportées, finalement, il n'y a rien eu sur le plan théorique de nouveau?
Non, il y a plein de choses en fait. Il y a eu l'émergence de la théorie des cordes qui essayait justement de réconcilier le tout. Le problème avec la théorie des cordes, c'est qu'en fait, mathématiquement, on n'a pas vraiment les moyens de résoudre ça tout bien comme il faut. Et donc, on fait intervenir des paramètres libres. Et dès qu'on a des paramètres libres dans une théorie, évidemment, on arrive à reproduire ce qui est observé, mais on n'arrive pas à prédire de manière vraiment pertinente, parce que comme le disait un scientifique dont le nom m'échappe, mais avec 4 paramètres libres, je peux vous dessiner un éléphant, et avec le 5e, il bouge sa trompe. Donc ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi avec des paramètres libres. Et dans cette théorie des cordes, il y avait énormément de paramètres libres, donc on n'avait aucun pouvoir prédictif. Et si on voulait passer au-delà, il nous faut des autres maths. Donc on attend des mathématiciens de génie qui puissent nous inventer un nouveau formalisme, une nouvelle façon de décrire le monde. Et en attendant, cette théorie des cordes est un peu restée de côté. Mais il y a toutes sortes d'initiatives de recherche qui essayent de réconcilier gravitation et mécanique quantique, comme la gravitation à boucle et des choses comme ça. Donc il y a plein d'équipes dans le monde qui cherchent, qui essayent de trouver une nouvelle façon de décrire l'univers. Et simplement, pour le moment, aucune n'a vraiment émergé par rapport aux précédentes. Et la théorie d'Einstein, comme on l'a un petit peu manipulée pour qu'elle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a rajouté l'inflation, on a rajouté la matière noire, l'énergie noire, c'est toutes des choses dont on ignore complètement ce que c'est, mais qui sont des espèces de béquilles qui font que la description fonctionne. Donc on arrive à décrire l'évolution de l'univers de manière très précise, mais j'ai un peu envie de dire, c'est comme, ma foi, on arrivait à décrire les mouvements des planètes avec la Terre au centre et les planètes et le Soleil qui tournaient autour de la Terre avec des épicycles et des béquilles comme ça dans la théorie qui faisaient que ça marchait aussi. C'est pas parce que ça décrit bien que c'est juste. Et c'est pas parce que ça décrit bien qu'on a vraiment compris la physique qu'il y a derrière. Et donc, on a un système qui décrit bien les choses, mais où la physique est un peu frustrante, parce que déjà, on sait justement qu'on n'utilise qu'une seule fois. Et en plus, on a des ingrédients dont on ignore totalement la nature. La nature de la matière noire, c'est un grand mystère. Je suis toute près du CERN, hein. Le CERN est à Genève. Ils essayent de fabriquer de la matière noire dans leur collision de particules. Et pour le moment, rien n'est sorti. Alors qu'on est tout à fait dans les gammes d'énergie où on devrait pouvoir avoir créé de la matière noire. Donc, que se passe-t-il ? Est-ce qu'elle n'existe pas, cette matière noire, et que du coup, c'est vraiment la théorie qu'il faut réviser ? Ou est-ce que simplement, il faut encore chercher dans cette direction ? On ne sait pas, on n'a pas assez de recul, en fait, pour savoir si la théorie est fausse et qu'il faut passer à autre chose, ou si, en cherchant plus loin, on va finir par comprendre quelle est la nature de ces composantes bizarres.
Alors, ces grands mystères de l'univers, finalement, Sylvia Ekström, ce ne sont pas des mystères uniquement pour nous, disons les gens du commun qui ne sont pas des astrophysiciens, ils ne connaissent pas ça. J'ai l'impression que ce sont des grands mystères, y compris pour les astrophysiciens comme vous.
Absolument, il y a encore plein de choses à découvrir. On a du pain sur la planche et on se réjouit des générations futures qui vont nous rejoindre. Et j'espère que ce livre pourra inspirer certains jeunes à se dire, bah tiens, finalement, il y a beaucoup à découvrir encore dans l'univers. On est loin de tout comprendre. Et donc, il y a de la place pour des futurs astrophysiciens.
Très bien. Bah alors, je continue mes questions parce que donc j'ai 12 ans. Et donc, je me pose une autre question, c'est que je vis sur une planète qui est la Terre et qui fait partie d'une galaxie. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette galaxie, d'où elle vient, combien il y a d'étoiles, combien il y a de planètes, etc.
En fait, notre galaxie, on peut l'observer. On peut l'observer surtout en été, où on voit une grande bande laiteuse dans le ciel. C'est pour ça qu'on l'a appelée la Voie lactée. C'est que ça ressemble à un petit chemin un peu blanchâtre. Pourquoi on la voit comme ça? C'est qu'on est dedans. La galaxie, c'est un grand disque d'étoiles et de poussière, mais on est dedans. Donc, on voit vraiment la tranche du disque. Et donc, on voit une grande bande comme ça. Si on pouvait aller au-dessus de la galaxie et vraiment aller se promener pour changer d'angle de vue, on verrait un magnifique disque, une belle spirale avec des bras comme ça et toutes sortes et plein d'étoiles et de gaz. Donc une galaxie, la définition d'une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles et de gaz qui est en lien gravitationnel cohérent en fait et donc qui tourne enfin, les galaxies spirales ce sont un ensemble c'est un disque qui tourne autour d'un centre et effectivement donc le système solaire se trouve le Soleil et les planètes qui l'accompagnent se trouvent dans le disque de cette galaxie qu'on appelle
Alors,
la Voie lactée.
la Voie lactée, c'est combien d'étoiles et combien de systèmes étoiles, planètes?
Alors, c'est à peu près 100 milliards, 200 milliards d'étoiles, en gros, à la louche.
Ouais. On est plus
Et
à quelques dizaines de milliards près, c'est ça?
voilà, on va pas pinailler pour... Voilà. Et en fait, plus on observe les étoiles, plus on se rend compte que chacune est accompagnée d'un petit cortège de planètes. En fait, quand une étoile se forme, il y a un disque de matière qui est autour d'elle. Une partie de ce disque vient sur l'étoile, mais toute une partie reste autour de l'étoile. Et dans ce disque se forment des planètes, presque automatiquement. Et donc, en fait, on se rend compte que presque toutes les étoiles qu'on observe comme il faut et pendant suffisamment longtemps, on découvre des compagnons planétaires. Donc, en tout cas, une planète peut être tout un système. De plus en plus, avec la base de temps d'observation qui augmente, on peut détecter des planètes plus lointaines et qui tournent plus lentement autour de leur étoile. Et donc, on se rend compte que presque toutes les étoiles sont accompagnées de planètes. Donc, on peut dire que pour les 100 milliards d'étoiles de la galaxie, il y a en tout cas un nombre équivalent, voire peut-être 10 fois plus de planètes.
Ouais.
Ça
Mais
fait du monde.
si tu veux extra, bon, j'ai 12 ans, donc j'ai 12 ans, et je sais compter jusqu'à 100, 150, et vous me parlez de 100 milliards d'étoiles, mais comme dans une galaxie, hein, dans une
Oui.
galaxie, il y a combien de galaxies dans l'univers?
Dans l'univers qu'on voit, il y en a à peu près justement aussi des centaines de milliards.
Bon, d'accord, des centaines de milliards d'étoiles à l'intérieur de centaines de milliards de galaxies. Et il y a un moment donné où enfin, on ne peut pas comprendre tout ça, c'est tellement abstrait. Est-ce qu'il y a une façon de s'imaginer, de se représenter cet univers, ou est-ce qu'on est condamné à ce que ce soit des choses qui sont totalement hors de portée de notre pauvre intellect?
Alors, je pense qu'on est très loin de ce que notre intuition arrive à suivre. Et effectivement, il faut juste se laisser porter avec ces grands nombres pleins de zéros et s'habituer avec la science, avec les mathématiques. En fait, on a certaines façons de représenter ces grands nombres qui nous permettent de les manipuler avec un peu plus d'aisance, on va dire, et d'être moins impressionnés. Si on devait vraiment aligner les zéros sur nos feuilles de papier, ce serait terrible. Mais on parle en puissance de 10, hein, donc 10 puissance 0 c'est 1, 10 puissance 1 c'est 10, 10 puissance 2 c'est 100, 10 puissance 3 c'est 1000. Et avec cette façon de compter, on arrive à manipuler ces grands nombres et à être un petit peu moins perdu. C'est moins impressionnant.
Bon, on va se rapprocher un petit peu de nous. Donc, la planète Terre, je continue mes questions, Sylvia.
Volontiers.
D'abord, notre galaxie, la Voie lactée, donc, quel âge a-t-elle, à peu près?
Alors à peu près, c'est difficile à dire, mais donc une galaxie s'assemble progressivement dans le temps. En fait, elle grandit en accrétant des autres petites galaxies qui la font grandir, en collisionnant avec des grandes galaxies, ce qui la fait devenir encore plus grande. Notre Voie lactée, elle s'est sans doute formée quelques milliards d'années après ce qu'on appelle le Big Bang, justement. C'est une galaxie on retrouve dans le halo de la galaxie, par exemple, des étoiles qui sont extrêmement anciennes, qui ont dû être parmi les toutes premières étoiles qui se sont formées dans l'univers. Et donc, ces petits sous-éléments se sont assemblés et ont fini par former une grande galaxie dans laquelle maintenant on a une activité de formation d'étoiles très très grande et donc on a plein de zones où les étoiles se forment mais on a encore beaucoup de gaz pour en former encore beaucoup. Mais donc une galaxie comme la Voie lactée, c'est une longue histoire en fait. Et on a des satellites qui nous permettent d'observer les différentes étoiles de la galaxie et on voit des courants d'étoiles dans la galaxie où on remarque que tout un groupe d'étoiles a un certain mouvement par rapport au reste des étoiles dans la galaxie. Et donc on associe ça, par exemple, à des absorptions de petites galaxies naines et qui ont gardé leur vitesse à l'intérieur de notre galaxie. Donc c'est pas un moment où, voilà, tout d'un coup, bim, la Voie lactée s'est formée. C'est vraiment une galaxie qui a grandi progressivement par absorption de galaxies plus petites.
Ça, par contre, intuitivement, on peut s'imaginer ça. Un petit peu comme des poussières qui s'agrègent peu à peu, ou des,
Oui.
je sais pas, une boule de neige qui peu à peu
Exactement.
grandit
Oui.
et qui, par agglomération, je dirais, de particules ou de flocons de neige. Ça, par contre, on peut imaginer ce qui a pu se passer. Et notre système solaire et notre Terre, donc, sur ces, est apparu à quel moment, si on peut le savoir?
Donc le Soleil s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années et la Terre s'est formée donc dans le disque de poussière qui était présent en fait à la formation du Soleil. Donc la Terre a mis quelque temps à se former, mais elle a pratiquement le même âge que le Soleil. Et tout le système solaire est daté de la même époque. En fait, quand on mesure les éléments radioactifs dans les roches terrestres, on obtient, et dans les roches des météorites, on obtient le même âge, par exemple. Donc, les météorites, c'est vraiment des briques de planètes, mais qui ne se sont jamais agglomérées en planètes, qui n'ont pas réussi
C'est-à-dire quel âge à
à
peu
former.
près?
4,5 milliards d'années.
5 milliards.
Oui,
D'accord.
4 milliards et demi.
D'accord. Ça devient plus raisonnable. Ce qui est
Un peu.
assez drôle, c'est que quand on parle de centaines de milliards d'années et qu'on tombe sur 1 milliard, on commence à se dire, ah, là, ça devient. Pourtant, 1 milliard,
On est content. Oui, un
on
milliard,
est content,
c'est
mais
beaucoup.
c'est aussi, 1 milliard, c'est aussi abstrait que 100 milliards. Donc, ça reste quand même quelque chose à. Alors, avançons encore vers le côté concret de notre Terre et de notre environnement. La Lune. Il y a tout un chapitre dans votre livre, hein, Sylvia Ekström, sur la Lune. Les questions qu'on se pose, évidemment, c'est l'astre le plus proche, celui qu'on observe le plus facilement, c'est celui qui nous fascine peut-être le plus depuis que nous sommes nés. La Lune, d'où vient-elle et quel âge a-t-elle?
Donc la Lune, vraisemblablement, est née d'un impact entre la Terre, qui était pratiquement formée, qui avait pratiquement la masse qu'elle a maintenant, et un impacteur qui devait avoir à peu près la masse de Mars. Et donc il y a eu un grand choc entre ces deux corps, qui a en fait arraché une partie du manteau de la Terre. Donc la Terre s'était déjà diversifiée en un manteau et un noyau, et avec l'impact de cette planète. Enfin, de cette protoplanète, cette petite planète, une partie du manteau a été éjectée dans l'espace, il a été fondu et éjecté dans l'espace, et il s'est mis en boule, en fait, dans l'orbite de la Terre. Et donc, on a des similitudes entre les roches lunaires et le manteau terrestre, hein, avec la différence que la Lune est en contact direct avec la radiation solaire, alors que les roches terrestres sont protégées par l'atmosphère. Mais en revanche, les roches terrestres sont modifiées par le vivant. Nous respirons, nous éjectons du CO2, les plantes fabriquent de l'oxygène. émettent de l'oxygène et toutes ces molécules réagissent avec les roches et donc modifient. Les roches terrestres sont modifiées par la présence de la vie. Donc il y a des différences entre Lune et Terre, mais on peut définir qu'à la base c'était les mêmes roches. Et donc, qu'effectivement, la Lune est vraisemblablement une partie du manteau terrestre qui a été éjectée dans l'espace par Alors, un impact majeur.
Est-ce que ça veut dire un impact, qu'il y a de la matière du manteau terrestre qui a été expulsée vers l'atmosphère et qu'après, c'est cette matière qui s'est regroupée à son tour pour former la Lune? C'est-à-dire qu'à un moment Absolument. Donné, on peut imaginer qu'il y avait toute une poussière qui tournait autour de la Terre et qui avait été éjectée du manteau terrestre.
Absolument, ça a dû faire d'abord un gros nuage. Ça a dû faire un gros nuage autour de la Terre qui, petit à petit, alors une partie est sans doute retombée sur Terre, mais une partie s'est stabilisée en orbite et s'est regroupée pour former la Lune.
Sous l'influence de la loi de la gravitation aussi.
Absolument.
C'est-à-dire que peu à peu, les poussières, les gaz, je ne sais pas, ont tendance à se regrouper et à former des boules solides. Est-ce qu'on peut imaginer un petit peu les choses de cette façon-là?
Oui, parfaitement. Oui.
Est-ce qu'on aurait pu avoir plusieurs lunes? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu imaginer plusieurs systèmes de regroupement autour de la Terre? Est-ce qu'il y a des planètes qui ont plusieurs lunes?
Oui, absolument. C'est tout à fait envisageable. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé, mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que deux morceaux assez importants de ce manteau éjecté se retrouvent dans des points différents de l'orbite terrestre qui sont un peu stables et du coup restent chacun dans leur coin et accumulent les plus petites entités. On a beaucoup dans le système solaire, en fait, la Terre a un seul satellite. Mercure et Vénus n'en ont point, mais toutes les autres planètes du système solaire ont beaucoup de lunes, en fait. Alors, ces lunes-là, c'est un autre mécanisme. Pour la plupart, ce sont des captures, en fait, de petits corps, comme des météorites ou des comètes, qui ont été capturés. Typiquement, Mars a deux astéroïdes, en fait, qui sont ces deux lunes, Phobos et Deimos. Ce sont deux astéroïdes qui sont, comment on appelle ça, des patatoïdes. Ils sont même pas ronds, ils sont trop petits.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces deux astéroïdes, avec le temps, finiront par se regrouper et n'en former qu'un seul, puisque j'ai l'impression qu'il y a un mouvement quand même de la gravitation, de la concentration? Ou est-ce que de toute éternité, ils resteront plusieurs?
Alors, en fait, ils ne sont pas sur les mêmes orbites, donc ils ont moins de probabilité de se toucher. Ouais. Et ils sont, en fait, plus ou moins en train de lentement retomber sur Mars. Mais ça va prendre encore des milliards d'années.
Très bien. Alors, Sylvia Ekström, on continue notre questionnement. Hein. Comme j'ai 12 ans et je vous interroge à propos de votre livre, donc Les grands secrets de l'univers, qui vient de paraître chez Debox Supérieur. Donc, on vient d'évoquer l'univers, la galaxie, la Lune. Question sur le Soleil. Le Soleil, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est l'astre qui a donné la vie. Est-ce que ce système avec le Soleil et les planètes existe à d'autres endroits de la galaxie? Est-ce qu'on a ce même système, c'est-à-dire une planète chauffée, irradiée par une étoile?
Oui, alors on découvre énormément d'exoplanètes, ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est donc des planètes qui tournent autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Et donc quand on observe les étoiles, on découvre des planètes autour d'elles. Et on peut déterminer plus ou moins une zone autour de l'étoile où il y a des chances que l'eau soit liquide à la surface d'une planète qui se trouverait à cet endroit par rapport à une planète plus proche qui n'aurait que de la vapeur, une planète plus éloignée qui n'aurait que de la glace. Et donc, effectivement, on appelle cette zone la zone habitable. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle est habitée, ça ne veut pas dire qu'il y a des petits hommes verts forcément sur ce genre de planète. Mais de fait, on découvre beaucoup de planètes qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Donc elles sont chauffées, elles peuvent être trop chauffées. On a beaucoup de planètes qui sont très très proches de leur étoile et où là on sait que la vie serait absolument impossible, en tout cas dans les conditions qu'on connaît sur Terre. Mais on en a beaucoup qui sont dans une zone tout à fait favorable en fait pour pouvoir éventuellement abriter la vie. Et c'est un des grands défis actuels, c'est de se dire est-ce qu'on serait capable de détecter la vie sur ces planètes? Si on les étudie, on les étudie forcément de loin, comment est-ce qu'on pourrait déterminer s'il y a la vie qui a pu se développer sur ces planètes-là, qui sont dans une zone vraiment favorable autour de leur étoile? Il y en a beaucoup, il y a de quoi faire.
Très bien. Alors, sur ce soleil, le soleil, c'est notre source unique de lumière, non? La lumière que nous avons, à part la lumière électrique, enfin la lumière artificielle, mais la seule lumière naturelle que nous ayons sur la Terre, elle nous vient du soleil, puisque la lumière de la Lune qui existe est elle-même le reflet de la lumière du soleil.
Absolument. Alors il y a une petite exception. Si vous allez dans le désert d'Atacama, où sont nos immenses télescopes et qui évidemment sont des lieux particulièrement exceptionnels au niveau de la clarté du ciel, mes collègues m'ont dit qu'on peut lire les titres des journaux à la lumière de la galaxie.
Ah, c'est ce que nous
Mais
disait David
évidemment.
Elbaz, qui est venu il y a quelques semaines dans cette émission et qui nous parlait du grand télescope de ce désert et qui nous disait
Voilà,
qu'effectivement,
absolument.
la nuit, il y a la lumière des étoiles. Oui.
Oui, absolument. Mais il faut vraiment des lieux très particuliers sur Terre. Mais sinon, oui, et de jour, c'est vraiment le soleil qui nous éclaire.
Alors ça, cette lumière des étoiles, c'est vraiment la lumière qui vient des étoiles, c'est pas la lumière du soleil reflétée, etc.
Non.
Donc ça.
Les étoiles sont des phares. C'est vraiment enfin, les étoiles sont des soleils. Le soleil est une étoile. Donc les étoiles brillent de leur propre lumière. Et donc, si on a la grande concentration du centre galactique qui est dans notre ciel, dans l'hémisphère nord, on n'a que les bords du disque visibles. Mais dans l'hémisphère sud, on a le centre galactique qui est visible. Et donc, il y a une grande concentration d'étoiles et donc une luminosité un peu plus forte. Et effectivement, alors lire juste les gros titres, hein, on n'arrive pas à lire vraiment l'article lui-même, mais on est éclairé par la galaxie.
Très bien. Alors, Sylvia Extrême, je continue mes questions parce que j'ai 12 ans et je vous pose une autre question. Donc, le soleil produit la lumière, mais la lumière, qu'est-ce que c'est exactement? Et vous écrivez dans le livre que vous avez co-rédigé avec Michel Gauthier-Claire, donc Les grands secrets de l'univers, vous expliquez que, enfin, oui, que la lumière à une vitesse constante, c'est-à-dire que 300 000 km par seconde, c'est ça, à peu près, mais qu'elle est absolument constante, c'est-à-dire que si on courait derrière la lumière et qu'on était à 250 000 km par seconde, la lumière pour nous continuerait à aller à 300 000 km par seconde. Alors ça, c'est aussi quelque chose. Est-ce qu'il y a une façon de se représenter cette constante qui est vraiment très intuitive? Parce que si j'ai une moto à 250 km heure et que je suis derrière une voiture qui fait 300 km heure, bah la voiture par rapport à moi, elle est en déplacement de 50 km heure. Bon voilà, c'est ce qu'on vit sur Terre. Qu'est-ce qui se passe avec
Oui.
la lumière? Est-ce qu'elle est d'une nature totalement différente?
Oui, c'est une nature différente et c'est tout le principe de la relativité d'Einstein en fait. Et c'est quelque chose qui malheureusement échappe à notre intuition. C'est plus du tout quelque chose avec laquelle on peut réfléchir en regardant ce qui se passe autour de nous et en faisant des comparaisons. C'est vraiment et cette constante de la vitesse de la lumière, ça a été vraiment un grand défi d'essayer de comprendre. Ça a été mesuré. Et c'était vraiment un grand défi d'essayer de comprendre comment c'est possible une chose pareille, parce que sur Terre, effectivement, on a des vitesses relatives toujours. Et c'est vraiment c'est au cœur du principe de la relativité générale, de la relativité d'Einstein, en fait.
Et ça, alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on renonce à comprendre, en tout cas à comprendre par l'intuition, par l'imagination, ce que c'est que la lumière? Et qu'est-ce qu'il faut il faut s'en remettre uniquement aux calculs, aux observations, aux équations?
Alors, on peut donner des images, mais qui seront valables que pour expliquer la petite caractéristique précise pour lesquelles on les évoque. Et c'est le problème avec les images de vulgarisation, en fait, où on essaye de donner une intuition justement sur un phénomène. Eh bien, ensuite, parfois, on reste figé dans l'image et on oublie que ça a été, que ça n'est valable que pour la caractéristique précise pour laquelle on l'utilise. Typiquement, alors là, je parle plus généralement de l'univers, de l'expansion de l'univers. On donne souvent l'image du cake au raisin pour dire, ben voilà, vous fabriquez votre pâte avec du raisin dedans. La pâte, elle est compacte. Vous la mettez au four. Le cake va gonfler. Donc, tous les raisins vont s'éloigner les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est dans un milieu privilégié. Et donc, les galaxies qui s'éloignent les unes des autres dans l'univers, c'est ce même principe, c'est que c'est l'expansion de l'univers, l'univers s'expand, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et donc, on donne l'image du cake au raisin. Mais trop souvent, en fait, on reste coincé sur le cake au raisin et ensuite, on veut décrire tout l'univers comme un cake au raisin. Et évidemment, c'est plus possible. Cette image, elle n'est valable que pour décrire le phénomène qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et donc c'est le problème avec tout ce qui touche en fait à la cosmologie, à l'univers lui-même, c'est qu'on est au-delà de notre intuition, on arrive à essayer de comprendre comment ça se passe grâce à nos équations, grâce aux maths, et ensuite on essaye parfois de revenir à des exemples de la vie de tous les jours, mais c'est très limité et c'est jamais complètement satisfaisant, en fait.
Est-ce que, Sylvia Ekström, est-ce que c'était pas plus simple de vivre avant, c'est-à-dire de vivre, par exemple, à l'époque de l'Antiquité, où les astrophysiciens de l'époque nous expliquaient que bah, le monde était simple, il y avait la Terre qui était ronde, qui était imparfaite, et puis il y avait le monde des étoiles au-dessus, qui lui était parfait, il y avait sept ou huit planètes, et que tout ça tournait dans la plus grande perfection, et on était dans un monde tout à fait compréhensible, intuitif, rassurant. Finalement, la vie était plus simple à ce moment-là, non?
Oui, c'était plus facile à décrire, on va dire. En revanche, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la quantité de recherche qui a dû être faite à cette époque-là pour comprendre ça, déjà simplement pour être capable de décrire ça, c'est absolument incroyable. Ils avaient zéro moyen, ils n'avaient pas de télescope, ils avaient juste l'œil et du temps pour observer les choses. Il n'y avait pas Netflix, hein, donc les nuits, les soirées d'hiver, on regarde les étoiles et on regarde comment ça bouge et on se dit, ah bah tiens, cette planète-là, elle n'est pas au même endroit que l'année passée. Ça veut dire qu'on se rappelle de où elle était l'année passée. On a suffisamment observé pour vraiment se rappeler les choses. Et donc, en fait, quand on imagine le peu de moyens qu'ils avaient pour décrire ce qu'ils avaient à décrire, c'est déjà incroyable. Et je pense qu'ils faisaient face. Nous, maintenant, a posteriori, on a l'impression que c'est plus simple. Mais je pense que pour les gens de cette époque, c'était des défis à peu près aussi grands que ceux qu'on a, nous, maintenant, à répondre.
Et ils découvraient aussi des petites incohérences dans leur système.
Exactement.
C'est ce qui a fait évoluer finalement le système vers le système de Kepler, et Copernic et autres.
Exactement, c'est toujours comme ça en fait. On a un système qui fonctionne bien, et puis tout à coup, on a une observation qui nous dit ah non, ça marche plus. Alors pourquoi ça marche plus? Est-ce que c'est juste un cas particulier bizarre, ou est-ce que c'est que bah oui, mais même un cas particulier, il doit être inclus dans la théorie globale. Et donc c'est toujours les petites choses gênantes de nos observations qui sont potentiellement les sources de nouvelles découvertes en fait et d'une amélioration de notre description du monde. Parce que finalement c'est ça notre job, c'est d'essayer simplement de décrire le monde.
Alors, je continue mon questionnement, Sylvia Ekström. J'ai donc, à partir de votre livre, Les grands mystères de l'univers. Donc, j'ai 12 ans et j'ai une autre question. Vous parlez de poussière d'étoiles dans votre livre, c'est-à-dire des questionnements, et vous dites que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Alors là, ça m'interpelle aussi. Ah, ça peut faire plaisir ou ça peut faire peur, j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement que nous sommes faits de poussière d'étoiles?
En fait, c'est l'astrophysicien Hubert Reeves qui a exprimé de cette manière-là les choses, et c'est une expression qui est restée parce que c'est très poétique quelque part. En fait, quand on étudie l'évolution de l'univers au début, enfin ce qu'on appelle le début de l'univers, qui est le temps justement après le Big Bang, on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium qui sont fabriqués. Donc c'est des éléments extrêmement légers qui sont sous forme de gaz en fait. Et pour arriver à avoir des éléments lourds comme tout ce qu'on observe autour de nous, nous on est fait de carbone, d'azote, d'oxygène, on a du calcium dans nos os, dans les roches terrestres on marche sur du silicium, de l'aluminium, du magnésium, toutes sortes d'éléments qui n'existaient pas en fait dans la soupe primitive et juste après la soupe primitive, quand l'univers s'est un peu refroidi, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Et c'est au cœur des étoiles, en fait, que ces éléments-là sont cuisinés, sont fabriqués à partir de l'hydrogène et de l'hélium primordial. Et donc, sans les étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de vie, il n'y a personne, il y a juste des petits nuages de gaz. Et donc, effectivement, tous les atomes qui nous constituent, à part l'hydrogène, a été fabriqué dans les étoiles, dans le cœur d'une étoile à un moment donné de sa vie. Et ensuite, cette étoile, elle a répandu ces nouveaux éléments chimiques dans l'univers, soit en explosant en supernovas pour les grosses étoiles, soit en s'évaporant, en évaporant ces couches externes pour les étoiles plus petites. Et donc ensuite, ces éléments chimiques fabriqués au sein de l'étoile ont pu incorporer des nuages de gaz qui ont formé de nouvelles étoiles avec des planètes qui, cette fois, avaient un petit peu d'éléments lourds. Et puis ces étoiles-là ont à leur tour fabriqué des éléments lourds qui se sont retrouvés dans la génération d'après. Et donc on compte qu'il faut plusieurs générations d'étoiles, en fait, pour arriver à une planète comme la Terre. Et même à notre Soleil, en fait, qui a à peu près 2% d'éléments lourds. Le Soleil, c'est en gros 3 quarts d'hydrogène, 1 quart d'hélium. Il y a 2% d'éléments lourds. Et c'est ce 2% qui fait toute la différence pour nous. Parce que nous, on s'est formés à partir de ce 2%.
Alors ça c'est intéressant. Ça veut dire que donc c'est les milliards d'atomes qui nous constituent. On retrouve des milliards là. Je suppose qu'on a des milliards aussi,
Oui, je pense, oui.
voire même des centaines de milliards. Je ne sais pas où vous en êtes, ou des milliers de milliards. Bon, peu importe. Et donc en tout cas, tous ces atomes qui nous constituent, est-ce qu'on peut dire que eux, c'est des atomes qui viennent de la Terre? Et que cette Terre vient des étoiles, ou est-ce que on a des atomes qui nous constituent, qui ne viennent pas de la Terre, qui viennent directement des étoiles?
Non, alors effectivement, tout le vivant, tout ce qui est sur Terre se construit à partir des éléments qu'il y a sur Terre. Mais effectivement, tous les éléments qui constituent la Terre ont été fabriqués dans des étoiles qui n'étaient pas le Soleil. Ça vient des étoiles précédant le Soleil, en fait. Le Soleil, lui, il a rassemblé ce qu'il y avait et il a permis la formation des planètes autour de lui. Et maintenant, il nous donne la vie par la lumière et la chaleur. Mais la fabrication des éléments qui constituent la Terre et qui donc nous constituent par répercussion, en fait, tout ça a été fabriqué par d'autres étoiles, par des étoiles antérieures, des générations antérieures d'étoiles. C'est nos grands-parents et nos grands-grands-parents étoiles qui ont fabriqué tout ça.
D'accord, très bien. Donc, nos atomes, les atomes qui nous constituent, viennent de la. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments. Il y a le carbone, l'oxygène, l'azote. C'est-à-dire, c'est ces éléments qui ont été formés sur la Terre et qui après se sont combinés pour donner de la matière vivante. C'est bien ça?
Alors, oui, ils ne se sont pas formés sur la Terre, ils ont vraiment été formés dans les étoiles, mais ils se sont retrouvés sur la Terre et la
Mais y compris
vie
le carbone, par exemple,
fabrique.
l'oxygène,
Tout ça,
c'était
ça
déjà.
vient des étoiles.
D'accord, ça
En
date de
fait,
l'étoile, c'est pas la Terre qui les a créés.
non, la Terre ne crée rien, elle est pas capable, elle n'a pas les conditions physiques pour fabriquer des éléments chimiques nouveaux. Dans nos labos, oui, dans nos labos terrestres, on a maintenant la capacité de créer des atomes différents à partir d'atomes plus petits. On arrive à combiner et à faire des atomes plus lourds. Mais la Terre elle-même n'a pas ces conditions-là. Donc elle vit avec un certain capital d'éléments chimiques qui a été fabriqué dans les étoiles précédant la génération du Soleil. Et effectivement, on décrit le vivant, pour se rappeler de quoi est fait le vivant, on a ce petit mot qui se dit schnops, donc C pour carbone, H pour hydrogène, N pour azote, O pour oxygène, P pour phosphore, S pour sulfure, schnops. Et donc ça, ce sont les principaux éléments chimiques qui constituent la matière vivante. Sur Terre, il y en a évidemment bien
Alors
plus, et en
c'est un
fait,
peu
on en a
comme la
beaucoup.
cuisine, c'est-à-dire que il y a des ingrédients au départ et puis on en fait quelque chose d'assez différent, mais ça reste de la farine, du sucre, des fruits,
Exactement.
Les éléments préexistaient, je dirais, au gâteau ou au pot-au-feu.
Exactement. Et entre vous et une pâquerette, il y a zéro différence. C'est les mêmes éléments.
C'est les mêmes éléments, d'accord, très bien. Alors, on arrive à la fin de notre entretien, mais j'ai encore une question. Alors, Sylvia, vous nous avez parlé de la matière qui constitue le vivant, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le soufre, etc. Mais ça ne me dit pas comment est apparue la vie. Ça me donne les briques du vivant, mais qu'est-ce qui a fait que justement tout ça s'est animé pour former la vie? Est-ce que c'est aussi un mystère ou est-ce que vous avez cette réponse?
Alors, ça reste vraiment du domaine du mystère pour le moment. On commence à avoir un peu des bribes de réponses dans le sens que on sait que il y a des phénomènes. En fait, déjà, il faut savoir comment on définit la vie. Pour pouvoir dire ça c'est vivant, ça c'est pas vivant, il faut déjà définir la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est encore en grand débat chez les biologistes, en fait. C'est pas du tout évident de savoir comment on définit la vie. En revanche, en gros, si on veut avoir une vie comme on a maintenant, on a besoin d'une cellule, on a besoin d'une espèce de bulle qui maintienne à l'intérieur un système qui est capable de se répliquer et de se nourrir. Donc de fabriquer de l'énergie, d'utiliser de l'énergie et de se répliquer. Le mécanisme de fabrique d'énergie par catalyse chimique, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde minéral. C'est quelque chose qui existe. La formation de bulles à partir de poches de liquide. De lipides, pardon, donc de quelque chose de gras, en fait. Entre le gras et l'eau, vous avez, si vous mélangez du gras et de l'eau, vous faites des bulles. Et donc, l'enveloppe cellulaire, c'est quelque chose qui peut émerger du monde inerte minéral. Donc, on a déjà la bulle, on a la catalyse. Reste à savoir comment on reproduit tout ça au fil des générations. Donc, il y a c'est un domaine tout à fait actif en biologie pour essayer de comprendre comment ça se passe, comment c'est possible. Donc c'est là aussi, je pense qu'il y a de la place pour les biologistes du futur pour essayer de répondre à cette question. On ne sait pas très bien non plus dans quelles conditions ça peut se passer. Est-ce qu'il faut des conditions très particulières? Nous, on sait que l'eau est liquide entre 0 et 100, mais si c'est trop chaud, c'est pas favorable. Si c'est trop froid, tout se fige. Mais on voit la vie sur Terre qui colonise des niches écologiques pas du tout favorables. Et donc, alors est-ce que c'est juste par pression démographique, hein? Il y a trop de monde là où c'est bien et agréable. On est obligé d'aller s'adapter à des milieux plus hostiles. Où est-ce que la vie pourrait naître dans ces milieux plus hostiles? Ça, par exemple, c'est des questions tout à fait non résolues pour le moment.
Sylvia Ekström, écoutez, merci, je suis arrivé au bout de mes questions, j'en avais plein d'autres, mais je renvoie à votre ouvrage, donc Les grands mystères de l'univers, paru chez Deboc Supérieur, et c'est un livre donc, que vous avez coécrit avec Michel Gauthier-Claire. Merci Sylvia d'être venue à Pilpoul. Et à très bientôt, j'espère.
Merci.
C'était Pile Poule, une émission de Marc Wilinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.
Vous souhaite de belles fêtes de Hanouka. Que la lumière éclaire toujours notre avenir et guide nos actions.
Grâce à vous, nous construisons une jeunesse éduquée et engagée, un réseau d'écoles solides. En Israël, le FSJU aide les enfants traumatisés, soutient les réfugiés avec dignité et espoir. Alors, restons forts, unis et solidaires.
Donnez maintenant sur don2024.fsju.org.
don2024.fsju.org.
Attention, votre don doit être fait avant le mardi 31 décembre.
Bonjour, c'est Marc Wilinski. Pour les fêtes de fin d'année, offrez ou offrez-vous un livre de philosophie souriante. Pourquoi il est impossible de rater sa vie. Dans ce livre, je montre que même si vous connaissez l'échec, la déception, que vous n'avez pas réalisé vos rêves, vous ne pouvez pas rater votre vie. Pourquoi il est impossible de rater sa vie, aux éditions First.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous. Maintenant, chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom, association au service de la vie.
Bonjour, c'est Laurent Couson. Retrouvez mon nouvel album Night Music, disponible sur toutes les plateformes. Night Music, c'est un album de piano solo, enregistré en quelques nuits, qui regroupe de nouvelles versions de mes thèmes de musique de film et des nouveautés. Un album intime, méditatif, amoureux. Night Music, mon nouvel album, c'est pour vous.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ.
Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean. Oh, musette. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. serment, mais qu'à l'heure, elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Du passé, n'en parlons plus.
RCJ 94.8 et radio RCJ.info.
ונשתה את תדברי ביידיש ופתאום את תחייכי אליי אז החיים הפכו אותי למשוגע עלייך אם את הולכת את יודעת שהלך עליי ככה זה כשטוב מדי זה בא בגלים ואת שקטה כמו ים ובלילות את כמו סופה כשאת צוחקת אם היו לי מילים כבר מזמן הייתי מספר לכל העולם כמה טוב לי שאני ואת לבד אז עד הבוקר, עד הבוקר לרקוד איתך, לאהוב אותך בלי סטופר עד הסוף איתך זה לתמיד אוי 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 איזה אושר, כמה אושר להתעורר איתך כל יום, כל בוקר אהבה כזו של פעם בחיים יפה כמו תמיד כמו חלום ישן שמתגשם ואם כבר מדברים אני אזיז הרים למענך עד שתראי את השמש בזריחה בואי ניקח איזה יומיים אני ואת ירושלים לכי תדעי אולי שלוף את הבת אם אשכחך את יודעת החיים הפכו אותי למשוגע עלייך אם את הולכת את יודעת שהלך עליי זה בא בגלים ואת שקטה כמו ים ובלילות את כמו סופה כשאת צוחקת אם היו לי מילים כבר מזמן הייתי מספר לכל העולם כמה טוב לי כשאני ואת לבד עד הבוקר, עד הבוקר לרקוד איתך, לאהוב אותך בלי סטופר עד הסוף איתך זה לתמיד איזה אושר, כמה אושר להתעורר איתך כל יום, כל בוקר אהבה כזו של פעם בחיים. ואת שקטה כמו ים ובלילות את כמו סופה כשאת צוחקת אם היו לי מילים כבר מזמן הייתי מספר לכל העולם כמה טוב לי כשאני ואת לבד עד הבוקר, עד הבוקר לרקוד איתך, לאהוב אותך, תסטופר עד הסוף איתך זה לתמיד איזה עושר, כמה עושר להתעורר איתך כל יום, כל בוקר אהבה כזו של פעם בחיים
RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ, un média du Fonds social juif unifié.